Denis Gravel, ça en vient dans les prochaines minutes. David Chabot, aussi notre chroniqueur en politique internationale. Tout ce beau monde-là est en place, prêt à travailler pour vous donner l'essentiel de l'actualité. Max est là pour justement faire les nouvelles, pour faire le sport. D'ailleurs, les Canadiens de Montréal qui jouent ce soir contre les Canucks de Vancouver, c'est à 19h30. On aura l'occasion d'en reparler tantôt. Mais ce qui intéresse les gens de Québec, c'est souvent ce qui se passe à la hauteur des ponts dans le trafic. On en est rendu où?
On en est rendu à un méchant bordel en lien avec cet accident un petit peu plus tôt. Entrée Pompière-Laporte, direction nord. Pour l'accident, c'est terminé, mais vous savez comment c'est quand il y a un accident de bonne heure dans le secteur des ponts. Ça continue à avoir un impact pour pas mal toute la matinée, puis on en est encore là. 20 Est bouché à partir de Route Lagueux, 20 Ouest bouché à partir de mi-chemin entre Chemin des Îles et Président Kennedy, 73 Nord avant même rue Beaulieu. Fait que peu importe d'où vous arrivez, c'est au rouge. Sur la Rive-Nord, ça va pas si pire que ça présentement. Le Capitale Ouest, quelques petits problèmes. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, comme d'habitude, c'est au rouge. Même chose sur Sainte-Geneviève. Sur Arcade Sud, entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest.
Parfait, merci beaucoup. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. David Chabot, officiellement, bonne année 2026, de la santé puis de l'amour ben en masse.
Pareillement, du succès dans tes études aussi.
Oui, merci. C'est important de le mentionner. Je suis un fier étudiant à l'Université Laval. Tout le monde sait ça.
Hey, Cuba... T'es étudiant en tourisme, je crois.
Aussi. Je suis étudiant en beaucoup de choses. Cuba, Groenland, Iran, Venezuela, poursuite contre la Fed de Donald Trump envers la Fed. Par quoi tu veux commencer? Il me semble qu'il y a de la job en maudit. Commençons par la géopolitique, parce que c'est souvent ce qui nous touche, là. La géopolitique. Commençons par le Venezuela. On en est rendu où?
Là, ce qui est merveilleux, c'est que Trump dit qu'il va rencontrer, dans le fond, la présidente par intérim.
Machado?
Non, Delcy Rodriguez, qui se trouve à être la VP, dans le fond, de Maduro en ce moment. C'est elle qui run le pays officiellement. Donc là, il se dit prêt à la rencontrer. Là. C'est pas exactement clair que ça va se faire, mais on peut présumer qu'ils vont se parler dans les prochains jours. En parallèle de ça, tu parles de Mme Machado qui avait gagné le prix Nobel.
Ouais.
Et dans le coin de Washington de ce temps-là, apparemment.
Elle avait partagé son prix Nobel avec Donald Trump à l'époque.
Oui. Puis là, lui, il a dit ça serait vraiment, tu sais, de bonne guerre, là, c'est que de le dire, qu'elle me donne son prix Nobel quand elle va passer là. T'sais, faites-moi des cadeaux à l'empereur. C'est quand même merveilleux. Tu peux pas te donner un prix Nobel de la paix.
Ouais. Non.
Je gagne, mettons, une voiture, puis je veux te faire plaisir, Marceau. Ouais. Regarde, voilà les clés. Tu peux partir avec, mais tu peux pas partir avec un honneur.
Le positionnement actuellement de Donald Trump par rapport à la géopolitique est juste hallucinant. Là, on est allé chercher le président, un dictateur. On est allé l'arrêter. On l'a amené aux États-Unis, puis il va se faire juger. Est-ce que ce sera équitable? Je sais pas. J'ose présager qu'on va s'arranger pour faire un exemple avec lui. Mais comment tu trouves ça, toi, qu'on ait kidnappé ou arrêté le président d'un autre pays?
C'est...
Parce qu'on veut le pétrole, on veut la ressource.
Ben, on s'en cache même pas. Trump le dit directement à la conférence de presse. Maduro, qui est une bonne pièce d'homme, hein, on le voit dans les photos.
Trois.
Ouais, il aurait pu jouer sa ligne des Chargers, ça aurait bien fait hier soir.
Ouais,
parce que ça faisait dur. Mais,
6-3, il est pas petit.
Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est quoi le plan d'après? Parce qu'on s'est tous dit, bon, ils vont chercher Maduro, puis bang, le régime tombe, on coupe la tête, puis on va mettre du nouveau monde. C'est ce qui est encore un peu en discussion, mais force est d'admettre que c'est encore le même régime qui run le pays en ce moment. Je te parlais de Delcy Rodriguez, c'est elle qui run le pays. Puis là, Trump, il dit, on donne les commandes, puis il l'exécute. Elle a dit, non, on est indépendant, on fait ce qu'on veut, là, la vérité est entre les deux, probablement. Mais c'est quoi le plan par après? Puis c'est tout le temps ça la même affaire. Quand tu utilises l'armée, c'est facile, parce que surtout les États-Unis, c'est l'armée la plus puissante de l'histoire de l'humanité fois mille, tu sais. Donc là, quand tu l'utilises, tu sais que ça marche. Après ça, tu fais quoi? Je suis pas certain que le plan en ce moment est très clair sur la transition.
Okay. Moi, je te garantis que Cuba, c'est pas mal fini, là, l'approvisionnement de Cuba par le Venezuela. C'était du pétrole qui était donné et ou semi-acheté, pas très cher. Par la suite, qui d'autre achète au Venezuela? C'est la Russie qui achète au Venezuela? Non, je pense que c'est la Chine qui achète au Venezuela. Donc, la Chine, ça devrait être coupé aussi, l'approvisionnement de la Chine vers le Venezuela. On nous dit qu'il y a des entreprises américaines qui sont très peu enclins à vouloir le pétrole vénézuélien. Je pense que ça va prendre quelques semaines encore.
Ouais. Ben c'est que le pétrole existe, sauf que c'est du pétrole très lourd, donc ça prend beaucoup d'infrastructures pour le traiter. Là, ce qui s'est passé avec le gouvernement vénézuélien pendant longtemps, c'est qu'on a fait la rente du pétrole, finalement. Donc là, un peu comme on a fait à Quito-Québec ici, là, de façon différente. On n'a pas beaucoup réinvesti dans les infrastructures en disant mais on va bénéficier de tous les dividendes que la ressource nous donne. Puis là, tu arrives à un certain moment où tu te dis « Wow, il faudrait réinvestir. » C'est en ce moment que ça se passe. Puis là, ben, les pétrolières disent « Ben, je veux bien, mon homme, mais il y a 3 semaines, c'était un autre président. » Puis en ce moment, on ne sait même plus c'est qui run le pays. Fait que là, c'est pas vrai, je vais aller slammer des centaines de milliards là-bas.
Ça va prendre une couple de semaines.
Ouais, ça va être compliqué.
Ben, cet effet-là, les grands pétroliers qui étaient en rencontre avec Donald Trump vendredi sont tous ressortis en étant... très froid l'idée d'aller réinvestir au Venezuela.
Ouais, exactement, parce qu'ils ont cette crainte géopolitique-là, parce que nous autres, on s'en parle autour de la table puis on jase, mais dans ces entreprises-là, il y a des gens qui sont payés à temps plein pour analyser les risques géopolitiques, parce que le pétrole, c'est mondial, autant sur le marché, l'échange du baril, que vraiment l'extraction des ressources. Donc là, en ce moment, tout le monde est sur le break, mais ils veulent pas faire de la pépine à Donald. Fait que là, ben, ils disent « Wow, ça nous intéresse, mais on va voir, puis on verra ». Une chose qui est importante dans ce dossier-là aussi, c'est le Shadow Fleet, la fameuse flotte fantôme qui est souvent appartient souvent à la Russie. Donc là, on extrait le pétrole du Venezuela, on les met dans des pétroliers qui sont souvent pas au drapeau du Venezuela ni de la Russie. Il y en avait de la Guyane récemment. Puis là, ces bateaux-là se promènent à travers la planète puis ils transportent le pétrole aux clients qui achètent sans trop de vergogne de où ce que ça vient. Là, bien que le Venezuela, jusqu'à temps que Maduro se fasse sortir, c'était pas si voyou que ça. Mais c'est quand même pas banal parce que c'était 3,7 millions de barils de pétrole par jour qui circulaient sur la Shadow Fleet à travers la planète, qui sortait pas juste du Venezuela, elle sort aussi de la Russie là, avec les sanctions et tout ça. C'est quand même des centaines de milliards de dollars de production de pétrole qui s'échange comme ça en dehors des marchés réguliers. Donc là, tu sais, on voit des interventions des États-Unis, justement, ils prennent le pavillon, dans le fond, sur les bateaux, là, tu sais, les fameuses forces spéciales qui débarquent, bing bang, là, c'est à nous autres, là, comme dans le film avec Tom Hanks, là, « Look at me, I'm the captain now », là, ben, c'est ça la Shadow Fleet, dans le fond. Puis pour le Venezuela, ça avait beaucoup d'importance. Là, on va couper ça. Donc là, il faut trouver une autre façon de sortir le pétrole du pays. Puis là, où ça va aller? Mais forcément, ça va être au sud des États-Unis, dans les grandes raffineries, genre au Texas. Puis il va falloir que ça se rende pareil. Puis il n'y a pas de pipeline qui se rende jusque-là. Donc là, toute cette infrastructure-là, il faut la rebâtir de zéro. Tout se fait dans la vie, surtout avec un président qui veut se lamer de l'argent sur le problème jusqu'à temps qu'il se règle. Mais c'est pas si simple. Mais
Trump veut mettre Machado là. Je comprends qu'il veut négocier avec les gens qui sont en place au Venezuela, mais comme à un moment donné, il y a un autre dictateur ou peut-être une autre dictatrice qui arrivera.
Ben, Machado, je suis pas certain parce qu'il y a eu des commentaires. C'est sûr que Donald, il en parle, il en dit bien des affaires, mais il y a eu des commentaires assez tièdes, comme quoi que c'est une fille qui était sympathique, mais je suis pas sûr qu'elle a la pogne pour faire ça. T'sais, il s'est quand même prononcé là-dessus, mais ça fait quelques jours, voire une semaine.
Maintenant, Cuba, on fait quoi avec ça? La population s'est encore plus appauvrie, là, quoi qu'elle était déjà très pauvre à Cuba. On parle de manque de ressources pour femmes, enfants et hommes qui vivent sur l'île. On vit principalement du tourisme à Cuba. Le tourisme aurait diminué d'un fort pourcentage. J'entendais une agente de voyage sur RDI, plus pas une étude scientifique, bien entendu, mais elle mentionnait que c'est 50% moins de demandes pour Cuba depuis plusieurs semaines. C'est catastrophique ce qui leur arrive. Plus on les fournit pas en pétrole, ça va être quoi le futur de Cuba?
Ça ira pas bien dans les prochaines semaines. Il y avait, comme tu le disais tantôt, une grosse proximité. Il y avait des bodyguards, des agents là, de protection cubains qui étaient au Venezuela pendant que Maduro s'est fait prendre. Fait que finalement, il n'était peut-être pas si bon que ça. Mais il y avait beaucoup d'échanges entre les deux pays. Donc là, moi, je suis convaincu que c'est le prochain gouvernement qui va sauter dans la région. Avec Trump qui dit, tu sais, il y avait la doctrine Monroe, on en avait déjà parlé ensemble, parce que là, la sphère d'influence des États-Unis, c'est toute l'Amérique, là, donc du sud du nord. Là, maintenant, il appelle ça la doctrine Monroe, parce que là, il dit, c'est Donald qui run le show, puis bon. Fait que là, à Cuba, je pense pas qu'ils vont aller chercher nécessairement le premier dirigeant en hélicoptère comme ils ont fait avec Maduro. Sauf que, clairement, ce régime-là est très, très, très fragile. C'est dommage dans le sens que il y avait une ouverture à la libéralisation commerciale à Cuba en ce moment. Il y a beaucoup de petits commerçants qui émergent. Le pays va pas très bien, comme tu le dis, sauf que c'était... Tu sais, il y avait comme une espèce de libéralisation, si on veut, là, de l'économie qui se faisait. Puis là, tout va s'effoirer. Donc là, ça va être quoi la solution? Ça va être probablement faire un changement de régime. Puis, tu sais, si Trump voyait Gaza comme la Côte d'Azur en Europe, ce qui est complètement atroce, comment il l'avait dit à ce moment-là, parce que le monde mourait encore, ben la Côte d'Azur des États-Unis, c'est pas mal Cuba.
C'est Cuba, ouais.
Donc là, il réfléchit tout le temps en promoteur immobilier. Fait que là, lui, il se dit, c'est du terrain de grande qualité. Il y a du beau commerce à faire là.
Si on américanise Cuba avec les propriétaires américains à Cuba, je te garantis que ce ne sera plus une des destinations cheap du monde.
Non, non, non.
Parce qu'avec les plus belles plages, là, c'est dans les, c'est dans ces endroits-là, c'est de toute beauté. Il n'y a pas d'algues, c'est des eaux turquoises. Si tu mets de la nourriture là, si tu mets des hôtels qui ont du sens, si tu as des employés qui ont du sens, désolé, mais ça coûtera plus 1500$ à la Cuba. Là. Ça va être à 3000$, ça va être à 4000$.
Bien, probablement. Puis j'ai l'impression que ça va revenir à comme à la belle époque à Batista. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça c'est avant Fidel Castro, là, il y avait beaucoup la mafia américaine à Cuba. Là, donc là, c'était peut-être pas le même contexte que ça peut donner, mais c'était très, très américanisé. Les gens allaient là en voyage. C'était comme la destination soleil par excellence. Puis c'était un régime assez corrompu, là, tu sais. Puis tu sais, des pays comme ça que tu vas avoir une espèce de droit de tutelle, là, un peu comme le Venezuela puis Cuba, à mesure que le pays qui est, je sais pas comment tu dis ça, tutelaire, là, en tout cas l'espèce de boss de la patente, à mesure qu'il y a du contrôle à distance, plus il y a de contrôle puis plus il y a de distance, plus tu as de la corruption qui se développe. Donc ça, c'est le risque que Cuba puisse déraper là-dedans. Mais à très court terme, en tout cas, il va y avoir beaucoup, beaucoup de pression pour avoir des concessions de la part du régime qui est communiste quand même à Cuba. Ça reste quand même une roche dans le soulier américain depuis très, très, très longtemps. Donc là, peut-être qu'on va en profiter pour juste comme utiliser la menace pour dire, regarde, donne-moi ce que je veux avoir, là, puis il reste en poste le temps que ça dure, puis on verra pour la suite. Mais moi, je suis convaincu que Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, puis qui est de descendance cubaine, il vient d'une famille, justement, qui a fui le régime là-bas, bien, il a peut-être bien l'envie de faire un grand leg politique et historique, puis dire, c'est moi, le secrétaire d'État, qui a fait en sorte que Cuba s'est libéralisé, puis qui a changé de gouvernement.
Donc, hâte de voir la suite, mon ami. Dirigeons-nous en Iran. Depuis 1979, c'est la République islamique qui est en place. C'est des Perses, hein, eux autres.
Oui.
Quand tu regardes les films là, sur les Perses, là, t'oses pas croire que ces gens-là qui étaient... c'était un empire, là, les Perses. Là, t'oses pas croire que ces gens-là sont devenus la République islamique avec les gros barbus, avec la police religieuse et tout ça. C'est une catastrophe. Donc, ils sont là depuis 1979. 2022, il y avait une jeune femme, je pense que c'était une Kurde, qui avait été avec sa famille en Iran. Puis, elle avait été arrêtée par la fameuse police religieuse d'Iran. Et on a dit à son conjoint, on va l'amener à la centrale de police, puis on va lui donner un cours sur comment mettre son hijab convenablement. Finalement, elle est morte 3 jours plus tard. On se serait attaqué à elle et on l'a battue. Elle est malheureusement décédée. Il y avait eu des manifestations à ce moment-là. Le nom de la manifestation, de cette manifestation-là, c'était le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et quand les femmes ont sorti dans la rue, ils en ont tué 600.
Ouais, ben c'est ça, c'est facile, hein? Les fusils sortent vite. Là,
les commerçants sont sortis en décembre parce qu'ils trouvent que le coût de la vie n'a pas de maudit bon sens. La République islamique décide, eux autres, de cleaner la soue et décide de s'attaquer directement aux manifestants. C'est une catastrophe, ce qui arrive. Là, on va parler de quoi? De 1000, 2000, 3000 morts dans quelques jours?
Parce qu'on s'est parlé vendredi, là, Jeff, puis il y avait 42 morts à ce moment-là. Maintenant, on en parle de plus que 500. Donc, la fin de semaine a été...
Ça n'a aucun sens.
Ça a été rock'n'roll. Puis là, ça fait juste commencer, je pense. Le régime a coupé Internet, puis on le voit là, dans le printemps arabe, là, dans les années 2012. Là, Internet était déjà très développé à ce moment-là. Ça a été un gros vecteur de mobilisation, puis un gros vecteur de logistique, de dire on s'en va là à telle place avec telle gang, tout ça. Puis je pense que les régimes, surtout du Moyen-Orient, ont appris de ça. Donc là, c'est pas anodin qu'Internet soit disparu d'Iran la semaine passée. Par contre, les réseaux civils ont l'air d'être vraiment très, très résilients en ce moment. Parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sortent à tous les soirs. Là. Ça fait 14 jours en ligne.
Ouais.
Puis là, ça a deux effets. Quand tu commences à sortir les guns puis tirer à balles réelles, ce qui est le cas maintenant, soit que ça décourage tout le monde. Puis ça, ils ont vécu ça plusieurs fois en Iran puis ils savent à quoi s'en tenir. Donc, je présume que ces gens-là savent que ça allait venir. Ou au contraire, ça catalyse tout le monde à dire là, ça va faire, là, on ne sera pas tiré dessus.
Oui, parce que là, le centre-ville est incendié. T'sais, là, les manifestants sont vraiment violents également.
Oui, ouais, ben c'est ça.
En réplique, là, évidemment.
Puis le rial a perdu 40% de sa valeur en quelques jours. C'est une catastrophe. Et là, le fils du Shah d'Iran, qui est aux États-Unis en exil depuis des décennies, dit « Ben moi, je suis prêt à retourner. »
Ouais, c'est un peu facile, sa position. Hein? J'ai peut-être pas toutes les subtilités de ça, là, parce que, tu sais, à un moment donné, culturellement, il y a des choses qu'on saisit pas à distance, là, mais Lui, il est là, puis il fait juste dire « Ah, mettez de la merde, là, puis si jamais ça vire de bord, je suis disponible. Sortez dans les rues, mais ouais. Lui, il est pas là, là. Fait qu'il est pas en danger, là. Fait que c'est facile d'être à sécurité, puis de dire « Non, non, mais faites une révolution, puis je vais revenir vous runner ça. »
Cleaner la soupe, puis une fois que la soupe sera cleanée, je vais arriver.
Surtout que c'est le fils d'eux.
Oui.
Parce que le chat lui-même, il avait des torts, il avait tort et raison pas mal, là, celui qui avait été placé par les États-Unis. Là, ça fait 50 ans qu'il n'est plus là. Fait que là, c'est pas vrai que son fils a son expertise de gestion. Ben je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, là, mais il a sûrement pas flippé des burgers chez McDo. Mais
parce que ton père a joué dans la Ligue nationale, que tu vas jouer dans la Ligue nationale.
Là. Absolument, absolument. Fait que là, dans ce cas-ci, il appelle à la révolution pareil. C'est un jeu un peu dangereux. Là. Je trouve que c'est jouer avec la vie des autres, mais en même temps, je pense que les gens cherchent juste une façon de se dire il y a un après en Iran, puis on va s'accrocher à ça, puis on va se soutenir.
En deux minutes, le Groenland, mon ami.
Groenland, c'est quand même une obsession pour Donald Trump en ce moment.
Hey, c'est 60 000 personnes sur des millions et des millions de pieds carrés. C'est des ressources naturelles à n'en plus finir. Les Russes s'intéressent au Groenland. Les Chinois s'intéressent au Groenland. Faut que Trump mette la main là-dessus avant.
Ben, tu sais, je pense pas que le Danemark aurait plus vendu le Groenland à la Chine ou à la Russie. Peut-être qu'il aurait fait un move militaire, sauf que là, ça devient dangereux parce qu'il y a une base américaine permanente sur le site. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, ils parlent d'acheter le Groenland. Je trouve que ça serait d'envoyer de l'argent qui sert à rien parce qu'ils ont déjà plein accès au Groenland. Mais le gouvernement américain, en ce moment, dépense comme s'il n'y avait pas de lendemain parce que Donald dit « Oui, mais on fait les tarifs. Il y a 600 milliards qui s'est rentré de l'année passée. On a les moyens de nos ambitions. On va augmenter aussi le budget de l'armée de 500 milliards à 1,5 trilliard ou billion en français. » Donc, tout ça pour dire que le Groenland, où c'est que ça s'en va, je suis pas certain qu'il va mettre la patte dessus, mais il va aller chercher des grosses concessions pour mettre des bases militaires partout à son goût puis d'avoir aucun droit de gestion de la part du Danemark.
Mais 60 000 personnes sur un si gros territoire, ces gens-là sont incapables de défendre leur territoire, tout comme dans le Grand Nord canadien, soit dit en passant.
Non, c'est ça, on n'est pas mieux, tu sais. Mais historiquement, il y a toujours eu une présence forte américaine pendant la guerre froide. Il y avait des radars, c'était comme un premier filet, si on veut, pour détecter la Russie. Donc là, ça s'est comme un peu égrené avec les dividendes de la paix depuis la fin de la guerre froide. Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas où ça va se donner, mais d'après moi, ça va être des concessions et ça va s'arrêter là.
David Jabot, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Merci les boys.
Max, salut, mon ami.
Accident plus tôt sur le pont Pierre-Laporte, direction nord. Ça crée des problèmes qui sont toujours d'actualité par la 20 Est à partir de Route Lagueux. Par la 20 Ouest, c'est bouché à partir de mi-chemin entre Chemin des Îles et Route du Président Kennedy. Par la 113 Nord, ça va au-delà de rue Beaulieu. Sur la rive nord, c'est pas si pire que ça, mais des problèmes capitale ouest entre Beau-Royal et Laurentienne, entre 4 Sud, Hauteur, Chauveau-Ouest et Robert-Brassa-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf.
En deux minutes, je veux les trois plus grosses nouvelles de la journée. Juste avant, on va regarder ce qui se passe côté météo. C'est moins 11 degrés actuellement avec le refroidissement éolien, c'est une température ressentie de moins 21. Alternance de soleil-nuages pour aujourd'hui. Peut-être un peu plus de nuages cet après-midi, maximum de moins 6 degrés. Ce soir, cette nuit, ça va se réchauffer parce qu'il y aura des averses de neige, donc des températures à la hausse pour atteindre un moins 2 au cours de la nuit. Et demain mardi, généralement nuageux, 40% de probabilité d'averse de neige.
Quatre individus ont été arrêtés en lien avec une tentative de vol de véhicule la nuit passée à Québec. C'est quelqu'un qui a vu des individus louches dans la cour de son voisin qui tentait de voler un char, a appelé le 911, a donné une description du véhicule suspect et on a été en mesure de rattraper le dit véhicule qui s'était sauvé. Quatre occupants de 16 à 19 ans arrêtés. Événement inquiétant dans le contexte de hausse de violence envers le personnel scolaire. La résidence d'un directeur d'école de Chaudière-Appalaches qui a été vandalisée par des élèves cet automne. C'est raconté dans Le Soleil ce matin et c'est aujourd'hui le début officiel de la nouvelle course à la chefferie du Parti libéral du Québec.
Go Habs, go! Le Canadien de Montréal 19h30 contre les Canucks de Vancouver. On espère gagner celle-là. Denis Gravel s'en vient dans les prochaines secondes.
Le Pit Stop avec Denis Gravel présenté par Identité Québec. Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. Identité